Monseigneur Vigano a publié une lettre que vous avez dû voir sur mon site, qui est une lettre importante, et dans laquelle il dit, voilà, il y a un doute sur l'élection de ce pape. Une nouvelle fois, il critique Monseigneur Schneider. Monseigneur Vigano est un homme très intelligent, très perspicace. C'est un diplomate, donc il voit tout. Et il sait que Monseigneur Schneider est un homme dangereux. Monseigneur Schneider dit, si l'élection du pape était nulle, en tout cas, du fait que toute l'Église le reconnaît comme pape, du coup, cela rend valide l'élection. C'est vrai que d'habitude, quelque chose s'est mal passé et que toute l'Église finalement reconnaît le pape, seulement c'est ne pas prendre la bonne mesure de la situation. Ça, c'est vrai dans des circonstances normales. Or, nous ne sommes pas dans des circonstances normales. C'est oublier que dans l'Église, nous ne sommes pas en démocratie et qu'il y a la majorité, mais il y a également les meilleurs. Et Monseigneur Vigano veut réveiller les meilleurs en disant, mais voyez que ce pape ne mérite pas qu'on le reconnaisse comme pape. N'allez pas rendre valide quelque chose qui ne l'est pas, puisque nous souhaitons justement que ce pape ne soit pas pape. Il compare avec le mariage, et surtout, il compare avec la situation du grand schisme. Dans le grand schisme, il y avait eu une élection pontificale qui s'était faite, vous savez, quelquefois il y avait des influences, quelquefois même c'était sous menace des armes, hein, les élections pontificales. Si tu votes pas pour mon candidat, je te tue. Bon, évidemment, le gars votait. Et quelques cardinaux ont renvoyé le pape qui était élu par la majorité, qui était reconnu par toute l'Église, en disant c'est un pape indigne, on ne peut pas se laisser gouverner par ce pape-là, on en élit un autre. Alors finalement, il y a eu un schisme. Bon, peu importe, ça c'est une autre affaire. Alors, pourquoi, pour Monseigneur Vigano, ce pape pourrait-il ne pas avoir été élu pape? Parce qu'il ne l'a pas voulu. Monseigneur prend la comparaison avec le mariage. Je vais vous donner un cas de mariage qui est très simple. Et là, vous allez très bien comprendre. Un cas que j'ai eu à régler, moi qui m'en suis occupé. Une jeune fille mineure, ça se passait aux États-Unis, une jeune fille mineure avait donc moins de 18 ans. Il se trouve qu'elle attendait un enfant. Inutile de vous dire que ce n'était pas dans le mariage légitime. La mère lui dit, soit... Bon, il y a des enfants, et donc je suis obligé d'être bien discret. Soit tu me débarrasses de l'enfant, soit tu épouses le père. La fille, qui avait été faible, n'était quand même pas sotte. Elle savait très bien qu'épouser le père était une bêtise. Quant à se débarrasser de l'enfant, il n'en était pas question. La mère insiste, elle dit, écoute, c'est tout, c'est comme ça, sinon je t'emmène de force. La fille se rend bien compte que si elle refuse d'épouser le gars, elle ne pourra pas résister à la mère sur l'autre point. Tandis que si elle épouse le père de l'enfant, on pourra toujours se débrouiller après. De fait, elle épouse le père de l'enfant et dès sa majorité, elle s'en va. Et elle nous dit « je ne l'ai pas épousé ». Oh, la mère dit, mais tu as dit oui. J'ai dit oui, mais j'en pensais rien. Or, pour qu'il y ait mariage, il ne suffit pas qu'il y ait un oui extérieur, il faut qu'il y ait un oui de la volonté. Nous n'avons eu aucun mal à prouver Ça a été très facile de prouver que cette fille avait fait semblant de dire oui et qu'elle ne s'était pas mariée. Dans ce cas-là, le mariage était nul, pour une bonne raison. Mais il pourrait y avoir des situations semblables pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, j'avais lu un roman, ça pour le coup c'était un roman, une histoire marrante, disons. La fille veut épouser un jeune homme qui était tout à fait de son âge, mais qui était pauvre. Ils se mettent d'accord tous les deux. Tu vas épouser ce vieux-là, qui est très riche. À mon avis, il y en a pour 2 ans. Au bout de 2 ans, tu prends l'héritage et tu peux m'épouser et nous serons riches. Mais c'est ce qu'a fait le pape. Il a cherché à nous rouler. Il est évident que pour démolir l'Église, il faut profiter de ce que les catholiques reconnaissent. Il a été poussé à accepter la papauté parce que c'est comme dans les élections politiques là-dedans. Ils sont poussés. Et Mgr Vigano, qui est à des postes importants, connaît toutes les magouilles qu'il ne veut pas révéler parce que c'est pas ça qui compte. Sinon, on va focaliser, on va dire « Ah, un tel a pas voté, un tel a voté, ça s'est passé comme ça. » Non, attendez, il y a bien plus grave. L'Église est en train de recevoir des coups de hache dans le flanc du bateau avec ce pape qui veut la couler. Il est évident que ce pape n'a pas voulu assumer la papauté. Assumer la papauté, c'est guider l'Église. Il utilise toute sa réputation de pape, je ne veux pas dire son autorité, il n'en a plus. Toute sa réputation de pape, il l'utilise pour casser tout ce qui peut se casser. On va dire il est franc-maçon, je ne sais pas s'il est franc-maçon, mais il est dans leurs mains. Il est dans leurs mains. Il est d'accord avec eux, il travaille pour eux. Alors on va dire que Mgr Vigano est un cédévacantiste. Or, Mgr Lefebvre a condamné le cédévacantisme, donc Vigano n'est pas sérieux. Les prêtres de la Villeneuve qui publient le texte de Mgr Vigano, on se doutait bien qu'il n'était pas sérieux, mais maintenant la preuve est faite. Et vous, en nous suivant, vous risquez de ne pas être très sérieux non plus. Alors il y a cédévacantisme et cédévacantisme. D'abord, Mgr Lefebvre a condamné le cédévacantisme. Jeudi 5, 86, quel est cet homme sur le trône de pierre? Est-il possible qu'un pape ne respecte même pas le premier commandement de Dieu? Le pape venait de réunir toutes les prétendues religions, les fausses religions à Assise. Il y avait eu un Bouddha sur l'autel ou sur le tabernacle d'une des églises. Est-il possible? Et il n'avait que posé la question. Ça avait fait un petit scandale au séminaire, d'autant plus qu'il y avait des retraitants qui étaient venus là, de l'extérieur. Le dimanche de Pâques, il dit « Voilà, mon sermon de jeudi a choqué. Pourtant, j'ai bien fait de le faire. » Et il a remis une couche. Puis il n'a jamais répondu à la question. Quel est cet homme sur le trône de pierre? Il n'a jamais répondu. Mais il n'est jamais revenu en arrière. Ça veut dire qu'il a trouvé légitime qu'on pose la question. Et ça veut dire que le moment n'était pas venu d'y répondre. Parce qu'il y avait plus important à faire, à son avis. Monseigneur, un peu comme Monseigneur Vigano, très intelligent, diplomate, la vraie diplomatie. Et surtout, Monseigneur Lefebvre n'allait jamais plus vite que le Saint-Esprit. Alors le plus urgent était de faire des évêques, d'ouvrir les yeux des fidèles, et d'attendre que les yeux s'ouvrent. Si Mgr Lefebvre avait dit « ce pape n'est plus pape », on n'avançait à rien. Il y a eu 4 évêques. Sur les 4, il y en a 3 qui tombent. Puis on a un pape qui est désastreux. Et puis... Et on se pose des questions. Mon père, plusieurs fois, m'a dit « Il n'est pas possible que cet homme-là soit pape. » Je lui dis « Papa, oui, je sais, me dit-il. » C'est là où l'autorité jouait de mon sens vers le sien. « Oui, je sais, me dit-il. On n'a pas le droit d'examiner ça, donc je te fais confiance. N'empêche !» Puis ça, on l'entend de plus en plus souvent. Et puis nous finissons par être considérés comme pas sérieux en défendant mordicus le fait que ce pape soit pape. Quelle est la différence entre Mgr Vigano et les cédévacantistes? La différence est considérable. Les cédévacantistes partent d'une espèce de loi, des grands principes, vous voyez, qu'il faut absolument appliquer à l'Église pour pouvoir conclure le pape est pape ou n'est pas pape. Mais ce n'est pas comme ça. Quand on est aux principes fondamentaux d'une société, ce n'est absolument pas comme ça qu'on raisonne. On est dans des cas tout à fait exceptionnels. Les lois positives, c'est-à-dire les lois humaines, ne peuvent pas résoudre ce genre de questions. Alors les réponses sont toutes simples. Mgr Lefebvre disait « La loi est pour la vie et pas pour la mort. Quand une loi est pour la mort, elle n'est plus une loi. » Évidemment, quand il s'agit de loi ordinaire, on peut dire « Qu'est-ce qui rend une loi nulle ?» Alors on a des livres, on étudie ça, vous voyez. Mais quand vous avez des choses qui sont absolument fondamentales, les livres ne l'ont pas prévu. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas dans le code de droit canonique les règles à suivre pour le cas où le pape attaque l'Église. Ça ne peut pas être dedans. La loi est faite pour la vie, pas pour la mort. La foi est au-dessus du pape. Et donc, quiconque a la foi peut juger celui qui n'a pas la foi. Nous faisons ça constamment. Constamment, vous vous servez de la foi pour juger des erreurs de ceux qui n'ont pas la foi. Si on vous révèle que celui que vous jugez prétend être pape, vous direz, ça m'est complètement égal. La foi est au-dessus de tout le monde, même du pape. Et celui qui a la foi a une certaine supériorité sur un pape qui n'a pas la foi. Les cédévacantistes sont allés chercher chez les théologiens du XVIe siècle des réponses. Mais c'était un moment où on se posait un tas de questions sur la politique. C'était une période, c'est la période de Machiavel. On ne savait plus ce qu'était une société, on voulait absolument, on avait perdu les pédales, et vous aviez le démon qui soufflait sur les braises, il était très content que les hommes aient perdu les pédales, parce que ça allait lui permettre de mettre des hommes à lui sur les trônes des pays. Alors les bons théologiens disaient, oula, on peut, est-ce qu'on doit obéir, est-ce qu'on doit désobéir, est-ce qu'on peut rejeter le roi, est-ce qu'on peut... Puis certains théologiens se sont posé la question, même pour le pape, si jamais le pape. Mais au Moyen-Âge, on ne raisonnait pas comme ça. Il y a un grand juriste de l'Église. Oui, oui, dit-il, on ne peut pas juger le pape, sauf lorsqu'il dévie de la foi. Parce que la foi est au-dessus du pape. Et donc la grande différence entre les cédévacantistes et Mgr Vigano, c'est que les cédévacantistes, vous voyez, raisonnent, Mgr Lefebvre les appelait des ordinateurs à deux pattes. Ils raisonnent en plaquant des raisonnements artificiels, et puis il faut absolument que ce soit comme ça. Comme ça ne marche pas très très bien, en plus ils sont obligés de déformer Saint-Robert Bellarmin. Pour ceux qui lisent l'anglais, l'abbé Chazal a écrit une petite brochure pour montrer que les cédévacantistes sont la plupart du temps malhonnêtes, qu'ils déforment Saint-Robert Bellarmin. Moi, j'ai constaté qu'ils ne savent même pas lire Vatican I. Même pas. Parce que Vatican I est un concile. Saint-Esprit, à la fin du XIXe, quand il a vu cette pagaille, il a suscité un concile Et ce concile a mis au point beaucoup de choses, et notamment ce concile, tout en rappelant que le pape était le premier dans l'Église, ce concile a ramené le pape à sa place. L'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Et c'est ce que Mgr Lefebvre a dit à Paul VI. Paul VI lui dit « Obéissez ». Ah, on ne connaît que l'obéissance, il n'y a que ça qui existe. Monseigneur n'allait pas lui faire la leçon en lui disant « Très saint père, vous n'êtes pas dans un domaine de l'obéissance, on est dans un domaine de la foi, dans la foi on se soumet, mais ce n'est pas une question d'obéissance. » Pensez donc qu'un moderniste est capable de comprendre ce genre de leçon. Monseigneur très simplement lui a répondu « Très saint père, pour vous obéir, il faut désobéir à vos 250 prédécesseurs, alors pour moi mon choix est fait. » Et c'est ça, c'est le Concile Vatican I. Vatican I a dit « Le magistère ordinaire de l'Église est infaillible, il précède le magistère du pape. » Et donc le pape a un vrai magistère, mais dans quelques cas limités. Alors bien sûr, on doit un grand respect au souverain pontife. Il y a des limites, hein. On pourrait donner un autre argument, voyez. Quand un virus rend malade, le corps se défend contre le virus. On ne se pose pas la question de savoir si ce virus, tiens, c'est encore Mgr Lefebvre. Je ne cherche pas à savoir qui l'a mis là, pourquoi, s'il est sincère, s'il n'est pas sincère, si je vois que l'Église est attaquée et qu'il faut se défendre. Et quand vous avez un virus, le corps se défend. Et c'est logique. Et quand vous avez Mgr Schneider qui dit « Non, non, ce virus est entré légitimement dans le corps. » Vous avez Mgr Vigano qui dit « Dégage, on n'en est plus là. » On n'en est plus là. Alors, quelles sont les conséquences? Donc, Mgr Vigano va déclarer que ce pape n'est pas pape et donc va en élire un autre. Déclarer que ce pape est pas pape, oui, ça il le fait. Est-ce qu'il va aller en procession à Rome pour faire tomber le pape de son trône? Non. Pas du tout. Ça me paraît très peu probable. Va-t-il en élire un autre? Comme Mgr Lefebvre, chaque chose en son temps. Il ne peut pas aller plus vite que la Providence. Pourquoi Mgr Vigano publie-t-il ça? Pour libérer les évêques qui sont prisonniers d'une fausse théologie, qui est la même théologie que celle des cédés vacantistes, mais qui est jouée à l'envers. Vous avez cette fausse théologie qui a mis le pape sur un pinacle, comme si on devait lui obéir toujours, comme s'il était l'autorité suprême de l'Église, alors je vous ai déjà dit 10 fois qu'il a l'autorité, mais qu'il n'est pas l'autorité. Et qu'il peut ne pas l'exercer, et qu'il peut l'exercer mal. Et vous avez cette théologie du XVIe siècle qui n'a fait que s'empirer après, qui est une fausse théologie dans laquelle on donne au pape une place indue dans l'Église. Et alors, on a eu une grande majorité qui a fait comme Mgr Schneider. Ah, il est pape, donc on ne peut pas aller contre. Vous avez, avec la même théologie, les cédés vacantistes qui disent « Il est hérétique, donc il ne peut pas être pape. » Et on sort de cette manière arbitraire de voir les choses, et Mgr Vigano est en train de libérer les bons évêques qui voudront bien se laisser libérer en disant « C'est vous qui avez les clés de vos menottes. » C'est vous qui vous êtes à vous-même passé les menottes. Vous êtes menotté par un faux respect au souverain pontife parce que vous avez pris une mauvaise théologie. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir vos menottes. Il ne tient qu'à vous de prendre la vraie théologie. Il ne tient qu'à vous de vous rendre compte que la foi est au-dessus de tous ceux qui ne l'ont pas, fussent-ils pape, que la loi est faite pour la vie et non pas pour la mort, que lorsqu'on a un virus, le corps se défend, rejette le virus. Il ne tient qu'à vous d'appliquer ces règles simples qui sont des règles évidentes. Et comme il ne peut pas leur faire de grandes théories sur la place du pouvoir dans la société, De même que Mgr Lefebvre ne pouvait pas faire de la théorie avec Paul VI. Alors, il leur montre des évidences. Et il espère que des évêques ouvriront les yeux en disant « Ben évidemment, ce pape, c'est pas pape, il ne veut pas exercer la fonction pontificale. Arrêtons de nous prosterner devant un homme qui ne respecte même pas lui-même sa fonction. » Est-ce que ça va aller plus loin ? Je ne pense pas qu'il faille... je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais je ne pense pas que Mgr Vigano veut nécessairement régler ce problème du pape. Je pense en tout premier qu'il veut nous libérer, nous. On se dit, hein, toute l'Église le reconnaît, donc... Donc il est pape. Alors évidemment, on n'est pas tenu d'obéir à un pape qui... très bien, heureusement, nous avons été formés par Mgr Lefebvre. Puis après ça, on lit le texte et puis on dit, mais non, mais Mgr Vigano va beaucoup plus profondément. Arrêtez d'appliquer des règles ordinaires à une situation qui est toute nouvelle et qui est dramatique. Arrêtez de vous ligoter avec une fausse théologie qui n'est pas la théologie de l'Église, qui n'est pas l'enseignement de l'Église. Je vais vous donner un exemple. Et puis alors, il espère que des prêtres également vont se libérer. Or, il y en a qui se libèrent. Vous avez un prêtre africain de l'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est des faux conservateurs. C'est comme le Coca Light, vous voyez. Tu as tous les défauts, c'est du Coca et en plus c'est Light. Vous avez ce prêtre africain, il vient de faire des vidéos sur Internet, il dénonce les hérésies du pape, il accuse le pape. J'accuse le pape de telle erreur, je ne sais plus, il y en a une demi-douzaine. Et il fait mouche à tous les coups. Donc l'Opus Dei l'a mis à la porte. C'est facile, hein? On met à la porte, débrouille-toi, on ne veut plus te voir, tu nous fais mauvaise réputation. Si Rome apprenait que nous t'avons gardé dans notre sein, dégage le plus vite possible. Bien entendu, il va faire école ce prêtre, il y a des gens et des prêtres qui vont dire, il a raison. On nous a enseigné dans les séminaires « Tu es Petrus et superum Petram et edificabo ecclesiam meam ». Tu es Pierre, Petrus, Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ouais. Alors en latin c'est Petrus au masculin et Petram au féminin. Petrus au masculin désigne Saint-Pierre et Petram au féminin désigne une pierre, un rocher. Donc notre Seigneur dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et comme tu es la sentinelle sur le rocher, je t'appelle rocher. Mais notre Seigneur ne dit pas, sur toi je bâtirai mon église. Et il ne dit pas, tu es Petrus et super ung Petrum. Je bâtirai mon église. Il dit, tu es Petrus et super ung Petram. C'est-à-dire, il y a Pierre et autre chose. Et Pierre est nommé Pierre à cause du rocher. Hein? Donc je bâtirai mon église, oui mon père.
Il y a le commentaire du père de l'église, Petra, la pierre, c'est la confession de la foi.
Je vais y venir. Donc qu'est-ce que c'est que ce rocher? Mais nous le savons, le rocher de l'église c'est la foi. Nous le savons, le pire c'est que nous le savons. Et alors nous disons... que Jésus-Christ aurait proclamé « Tu es Pierre et je bâtirai mon église sur toi ». Oui, parce qu'il est facile de parler de la foi de Pierre, mais on parle de la foi de Pierre, justement. Or, qu'est-ce que la Providence a voulu? D'ailleurs, notre Seigneur dit à Saint-Pierre « Et toi, quand tu seras converti, confirme tes frères dans la foi. » Et de fait, le premier pape va renier notre Seigneur Jésus-Christ. Si le pape était le fondement de l'Église, ça ne fait pas une Église solide, ça. Pourquoi la Providence a-t-elle permis que le premier pape renie notre Seigneur Jésus-Christ? Pour que nous nous rendions bien compte que le pape est chargé de confirmer les frères dans la foi, mais qu'il n'est quand même pas le rocher de la foi. Nous sommes tous plus ou moins prisonniers de cette fausse théologie. nous moins que d'autres, parce que nous avons eu cette grâce de mieux comprendre Mgr Lefebvre, parce qu'il se trouve que, voilà, peut-être, vous moins que d'autres, parce que depuis le temps qu'on vous le rabâche, malgré tout, quand nous voyons le mal que nous avons eu, enfin que j'ai eu, quitter la fraternité Saint-Pidis, parce que respect envers les supérieurs, obéissance aux supérieurs, que la fraternité Saint-Pidis avait été voulue par la Providence pour défendre la foi, oui, mais elle n'est pas la foi. Alors, merci à Mgr Vigano, avec des paroles très simples, de nous libérer d'une théologie qui menottait, avec ces menottes qui sont les pires, parce que c'était des menottes volontaires, dont nous possédons la clé, et nous ne voulons pas utiliser la clé. Quelles sont vos questions ?
Au moment de l'élection de Paul VI, on avait dit justement pourquoi Mgr Lefebvre n'avait pas pris position contre. Il aurait dit que du moment que toute l'Église allait ratifier ces élections, il n'est pas.
Oui, c'est l'enseignement de Mgr Lefebvre, parce que c'est l'enseignement de l'Église. Avant de dire aux enfants que les parents ne sont pas mariés, on commence par leur dire, écoutez, toutes les apparences montrent qu'ils sont mariés. On ne va pas se précipiter. Mgr Lefebvre a suivi la Providence, c'était pas encore... Il l'a dit dans un article, il l'a écrit dans un article publié dans le Figaro, qu'il a écrit pour le Figaro, en 1976, donc juste après l'été chaud. L'été chaud, la première condamnation, prétendue condamnation, qui était une prétendue suspense. Et Mgr Lefebvre écrit dans le Figaro, il est beaucoup plus sûr que la foi est vraie que d'affirmer que ce pape est pape. C'est une petite phrase, elle a gêné beaucoup de gens, notamment les lecteurs du Figaro n'étaient pas prêts à entendre ça, donc la petite phrase n'a pas été lue, a été très vite oubliée. Mais il mettait déjà un pied dans la porte. Alors après ça, il dit durement que l'Église le reconnaît, il est pape. Oui, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais c'est là où justement Mgr Vigano ne fait pas reproche à Mgr Lefebvre d'avoir dit ça, mais il fait reproche à Mgr Schneider d'avoir dit ça, parce que depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, parce que depuis les choses sont encore plus catastrophiques, parce que depuis nous avons eu de quoi ouvrir les yeux, et il nous dit, plutôt que de fermer les yeux pour approuver ce pape, ouvrez-les, et à ce moment-là, justement, il ne sera plus approuvé.
Et justement, il dit aussi autre chose, c'est que les prédécesseurs de François, ils ont justement posé des actes hérétiques, mais ils ont aussi posé des actes de pontificat, et là, il n'y a plus aucun acte de pontificat du tout.
Jusqu'à maintenant, je vous disais que Benoît XVI était pire que François, parce que Benoît XVI a posé des principes et que François pose des actes. Or, les principes sont toujours plus graves que les actes. Et dire à son père « tu n'es pas mon père » et lui obéir, c'est beaucoup plus grave que de lui dire « tu es mon père, mais je m'en fiche ». Bien entendu. Mais, ce pape-là, on cherche ce qu'il a fait en faveur de l'Église. Alors bien sûr, Benoît XVI a fait beaucoup de mal. Malgré tout, oui, comme dit le père et dit Mgr Vigano, il a quand même cherché à faire des choses bien. Bon, enfin bref. En tout cas, c'est flagrant. Maintenant, c'est flagrant. Et tous les invertis, la négation du mariage, du moment qu'ils s'aiment, c'est équivalent au mariage, le synode sur la synodalité qui va tout détruire, tout détruire. Dès que nous proclamerons l'enseignement de l'Église, on nous dira, ah oui, ça, c'était l'enseignement de la majorité à une certaine époque, mais la majorité a changé. Voilà. Autre question.
De quel monseigneur Schneider on parle ?
Athanasius Schneider. qui a une réputation de traditionaliste qui est très surfaite, qui se donne une réputation de conservateur, c'est un évêque pieux. Mais un évêque pieux ne fait pas un évêque défenseur de l'Église. J'ai lu la vie de Mgr Schneider. Il a souffert sous le communisme. Il est originaire d'Allemagne, d'Allemagne de l'Est. Famille très pieuse. Un bon comportement pour la défense de la foi quand il était jeune. Il s'est retrouvé évêque. Et là, Rome lui a demandé de jouer un sale jeu. Alors, ce n'est pas parce qu'il est pieux que ça en fait nécessairement un bon évêque. Il est la coqueluche de tous les conservateurs qui ont enfin un évêque pour approuver leur position, qui sont des positions de...
lâche.
Oui, de lâche. D'autres questions? Oui.
Peut-il y avoir schisme si là,
pourquoi vous faites référence au pape à propos du schisme?
Parce que c'est une question de personne. Est-ce qu'un schisme peut découler simplement d'une position de personne?
Votre question me montre que vous avez la réponse et que vous répondez non. On a défini le schisme comme le fait de se séparer du pape. Mais vous avez Saint-Robert Bellarmine qui dit qu'un pape peut faire schisme. Qui connaît la définition du schisme?
C'est la séparation de la communion des saints.
Oui, c'est la rupture de la charité. L'hérésie est la rupture de la foi et le schisme est la rupture de la charité. Or, il faut toujours ramener à des notions simples. La charité est une amitié, donc le schisme est la rupture de l'amitié. Donc, c'est la destruction de l'Église par rupture de l'amitié dans l'Église. Vous voyez ? Il y a la destruction de la foi, qui détruit l'Église aussi, mais vous avez des gens, et les schismatiques orientaux sont parfaitement cela, enfin, c'est exactement ça qui s'est passé. Nous avons la foi, vous avez la foi, mais vous n'êtes plus nos amis. Alors, on peut rompre l'amitié avec le représentant des amis, ou avec tous les amis, et puis ça peut être le représentant des amis qui lui-même casse l'amitié. Saint-Robert Bellarmine dit qu'on peut faire schisme en détruisant la liturgie. À ce moment-là, le schisme serait depuis Paul VI. Mgr Lefebvre, lorsqu'il fut prétendument excommunié, je dis prétendument parce qu'il tenait absolument, absolument, à ce qu'on ne parle pas d'excommunication comme si ces excommunications étaient réelles. Il s'est fâché contre un prêtre qui avait mal rédigé un livre là-dessus. Mgr Lefebvre, juste après cette prétendue excommunication, lorsque il sacra quatre évêques, on dit que je suis excommunié. Mais j'ai été excommunié par des gens excommuniés. Ils sont excommuniés depuis Saint Pie X. Saint Pie X dit que sans qu'il y ait nécessité d'un jugement, tout moderniste est excommunié. Alors, est-ce que le pape peut faire schisme? Ben oui. Donc, le schisme n'est pas la séparation d'avec le pape, il est la séparation d'avec nos frères. Et si le pape représente nos frères, le plus simple est de se séparer du pape pour dire qu'on se sépare du frère. C'est ce qu'ont fait les orientaux. Mais on peut très bien se séparer des frères sans se séparer du pape. Et c'est ce que le pape a fait. S'il y a une évidence, c'est que ce pape est schismatique. Et on le sait depuis fort longtemps, puisque lorsque Mgr Lefebvre a commencé à discuter avec Rome, ou plutôt que Rome a commencé à discuter avec Mgr Lefebvre pour essayer de le ramener, croyant que Mgr Lefebvre n'en ferait qu'une bouchée, Mgr Benelli a parlé de l'Église conciliaire. Alors plus tard, on a reproché à Mgr Lefebvre de parler de l'Église conciliaire. Il dit, mais c'est pas moi, c'est Benelli, c'est à lui qu'il faut faire le reproche. Ça prouve donc que dans l'esprit de Rome, il y a deux églises. L'Église conciliaire et l'Église traditionnelle. Le schisme, il date de là. Vous n'êtes pas de chez nous. Rome dit, vous n'êtes pas de chez nous. D'autres questions? La question posée est finalement, ce pape ne nous rend-il pas service puisqu'il sert de révélateur? Oui, je suis tout à fait de votre avis, de même que la nouvelle messe a fait du bien. C'est-à-dire qu'à un moment où les catholiques ne pouvaient pas comprendre, le bon Dieu a permis le nouveau rite de la messe qui les a tellement choqués que ça les a aidés à ouvrir les yeux. Puis le démon a essayé de faire une prise de judo à la Providence et on a des papes modernistes, outrageusement modernistes, qui ont restauré la messe traditionnelle, le rite traditionnel. C'est Benoît XVI. Et vous avez tous les conservateurs qui rejettent François et qui s'appuyaient sur Benoît XVI. Et avec des arguments qui ne tenaient pas debout. Mais parce que Benoît XVI avait restauré la bonne messe. Il n'avait rien restauré du tout. Alors on a cette chance que le pape François a supprimé le rite traditionnel de la messe. Donc ça gêne quand même les conservateurs. Mais quand ils sont aveugles, il n'y a pas pire que celui qui ne veut pas voir. Et puis effectivement, la providence permet. D'ailleurs, c'est un principe de théologie. Hein. Le bon Dieu ne permet le mal que pour en tirer un plus grand bien. Mais justement, à nous d'en tirer un plus grand bien. Et de ne pas faire comme Mgr Schneider, de fermer les yeux pour échapper à la responsabilité qui est la nôtre, d'en tirer le bien qui doit en être tiré. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus. Cœur douloureux et immaculé de Marie.
Priez pour nous.
Saint François.
Priez pour nous.
Saint Charles.
Priez pour nous.
Saint Marcel.
Priez pour nous.
Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.